Bonjour à tous et bienvenue du coup dans cette deuxième chronique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion qu'on emploie un peu à toutes les sauces depuis un an et au titre duquel on justifie les pires atrocités. Aujourd'hui, je vais vous parler du concept de résistance en droit international. Et oui, je sors un peu cette fois-ci ma casquette d'avocat. Vous avez sûrement dû entendre cette affirmation depuis un an selon laquelle le droit international permet toute forme de résistance. Et sous couvert de ce même droit, la résistance justifierait le meurtre, les pogroms, les attaques, les enlèvements et le fait de s'en prendre à des civils en dehors du conflit sur l'ensemble du globe. Alors du coup, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce droit permet vraiment de tout faire au nom de la résistance? Eh bien évidemment, la réponse est non. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour faire cette phrase, tout le monde part d'un seul texte, la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 1970 qui dit que les peuples coloniaux peuvent lutter par tous les moyens nécessaires contre les puissances coloniales qui répriment leur aspiration à la liberté et l'indépendance. Alors c'est vrai, si on s'arrête à ça, comme le font 99% des gens qui utilisent ce texte pour justifier le pire, eh bien oui, la rhétorique est vraie, le droit international permettrait le pire pour résister. Sauf que non. Il ne faut pas s'arrêter là, et il faut aller chercher dans les autres sources du droit pour compléter notre réflexion. Et oui, le droit, c'est pas un marché où on prend ce qu'on veut pour faire la salade de notre choix. Le droit, c'est une matière complexe qui nous impose, pour pouvoir bénéficier d'un droit, d'en respecter plein d'autres. Alors, du coup, qu'est-ce qui dit le reste du droit international? Eh bien, il faut aller voir dans les conventions de Genève de 1949. Et l'article 1 dit clairement que les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère doivent être considérés comme des conflits armés internationaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que là, vous allez me dire, attendez, Sarah, tu m'as perdu. Eh bien, on s'accroche. Si on synthétise, ces deux textes veulent simplement dire que 1. On a le droit de résister si on est un peuple sous domination coloniale ou si on est occupé par une puissance étrangère occupante. Par exemple, l'Ukraine peut résister contre l'occupation russe. Numéro 2, qu'on peut résister avec tous les moyens nécessaires. Et numéro 3, mais que si on le fait, notre résistance devient alors un conflit armé international. Et c'est là où le bât blesse. Parce que ceux qui emploient le mot résistance se limitent aux points 1 et 2, à savoir le droit de résister par tous les moyens. Mais ils oublient un peu du coup la dernière partie, à savoir que si on résiste, eh ben on devient du coup un conflit armé international. Et vous savez quoi? Dans un conflit international, eh ben on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. On doit respecter une condition. Et vous savez c'est quoi cette condition? C'est simple, respecter le droit international. Et ce droit international, il est clair. Même en cas de résistance, on n'a pas le droit de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Alors qu'est-ce qu'un crime de guerre? C'est, par exemple, ce que dit l'article 8 du statut de Rome, qui précise qu'un crime de guerre peut être un homicide, une torture, une destruction de biens, des viols, des pillages et des prises d'otages. Et on n'a pas le droit de faire ça, ni sur des civils, ni sur des soldats, ni au nom de la résistance. Et un crime contre l'humanité? Également, c'est le statut de Rome qui va expliquer que c'est toute attaque qui va être perpétuée contre une population civile. C'est par exemple le meurtre, l'extermination, le viol, la torture et encore une fois la prise d'otage. Et c'est particulièrement interdit contre des soldats, mais c'est aussi interdit contre des civils, et surtout contre des civils qui auraient été visés en raison de leur religion ou de leur nationalité ou même de leur parti politique. Et oui, si comme moi vous n'aimez pas les filles, bah vous n'avez quand même pas le droit de lancer une attaque contre tous les membres de leur parti politique en raison de leur appartenance politique. Ce serait un crime contre l'humanité. Du coup on résume. 1. Le droit international permet de résister. 2. Il n'autorise pas au nom de la résistance la commission de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Conclusion. En 3. La résistance doit donc respecter le droit international humanitaire. La résistance ne peut pas se faire par tous les moyens nécessaires. C'est aussi simple que cela. Donc du coup, on doit arrêter d'utiliser le droit comme un argument politique ou à des fins alarmistes ou propagandistes, ou employer à tout va des termes comme résistance légitime ou par tous les moyens. Parce que du coup, qui va respecter un droit que plus personne ne respecte et que plus personne ne comprend? On connaît tous l'histoire de Pierre et le loup. À force d'avoir crié au loup, lorsque ce dernier a eu raison de Pierre, personne n'a porté assistance à Pierre. Et à notre tour, si nous continuons d'employer à tort et à travers des mots qu'on ne maîtrise pas en sombrant dans le sensationnalisme, on va tous finir par perdre nos acquis. Et le jour où se produira l'inévitable, plus personne ne saura comment le nommer et plus personne ne saura comment lutter. Alors employez les bons termes. Donc je vous remercie et je vous donne du coup rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.